voici un nouvel épisode de Culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Cult Podcast et aujourd'hui on va se concentrer sur le désert, un endroit immense, sans écho. Parfois on peut y rencontrer des canyons, des coyotes, des fennecs et un petit peu de culture aussi. Aujourd'hui on s'est concentré sur quelques œuvres dont on va parler. J'accueille Thibaut, évidemment. Thibaut, je ne t'avais pas vu.
Salut Max.
C'était une illusion dans le désert, ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va très bien. Donc aujourd'hui on va commencer avec un film, je te laisse le présenter.
Oui, film multiprimé qui a eu vraiment un énorme succès critique. Ce film, c'est Babel, donc qui est sorti en 2006, réalisé par Alejandro González Iñárritu, bon, qui s'est bien fait remarquer, un réalisateur d'origine mexicaine, hein, bien connu. Bon, il avait fait avant ça 21 grammes. Puis il y a eu Birdman, qui a été primé aux Oscars aussi, et bien sûr The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Je pense que c'est le seul réalisateur d'ailleurs qui a obtenu l'Oscar, plus du meilleur film ou du meilleur réalisateur, 2 années de suite avec 2 films différents. Donc, 2 films d'ailleurs très très différents finalement. Donc, voilà, il fait des choses assez intéressantes, je trouve. Et donc ici, on parle de Babel. Alors, Babel, en fait, commence dans le désert. Hein, donc le lien est assez vite fait. En fait, le film commence par deux jeunes garçons marocains. En tout cas, c'est tourné au Maroc. Donc c'est au Maroc aussi que l'intrigue se joue. Qui jouent en fait avec un fusil et qui atteignent un quart de touristes américains. Et pas de chance, j'ai envie de dire, c'est une femme qui est vraiment touchée et assez gravement par une balle perdue. Et donc cette femme est interprétée par Cate Blanchett. Elle est en vacances avec son mari, qui est interprété par Brad Pitt. Et 2 Américains comme ça, dont le couple n'allait pas trop bien, ils essayent de se remettre, si je me souviens bien, de la mort d'un enfant. Et donc ça, c'est une première partie de l'histoire. Alors donc ça s'appelle Babel, pas pour rien, puisque donc il y a 2 autres, on va dire, intrigues qui se jouent en même temps. Et l'une, c'est aux États-Unis, justement avec les enfants de ce couple qui sont gardés par leur nounou mexicaine, nounou qui va les emmener au mariage de, je sais plus, c'est son fils, son neveu, en tout cas quelqu'un de sa famille. Et tout va pas très très bien se passer là non plus. Et à un moment d'ailleurs, ils font aussi, eux, se retrouver dans une sorte de désert. Donc comme ça, c'est la 2e fois que je valide le thème. Et donc ça fait la 2e partie. Et puis la 3e, elle a lieu au Japon. Et alors, je vais pas dire pourquoi, quel est le lien avec le reste. Alors que se déroule au Japon, et là, un père et sa fille, j'ai envie de dire qu'ils ne se comprennent plus en fait. Qu'il y a des difficultés à vivre un peu en société, avec voilà, et qui est sourde aussi, c'est un point important. Voilà, ce qui est vraiment vraiment formidable dans ce film, c'est comment toutes ces histoires vont s'articuler. Sans aucun artifice, hein, c'est pas ils vont se retrouver tous dans une même pièce à la fin. Voilà, on n'est pas dans ces facilités-là. Comment tous ces destins finalement s'entrecroisent, c'est superbement interprété. Je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, c'est une des films où Brad Pitt a un peu, c'est la période où il a un peu quitté ses rôles de juste de bellâtre, on va dire, ou des choses comme ça, et rôle plus consistant. Donc je l'ai trouvé assez bouleversant dans ce rôle-là. Donc Cate Blanchett n'a pas un très grand rôle parce qu'elle est très vite blessée, donc elle joue le rôle d'une femme un peu mourante comme ça, donc pas un très très grand rôle, on va dire. On trouve aussi Gael Garcia Bernal dans ce film. Et moi, j'avais beaucoup aimé aussi la musique qui accompagne, qui est signée Gustavo Santaolalla. Je trouve que notamment la musique de fin accompagne le spectateur et reste longtemps en tête. Enfin, c'est plus un drame, évidemment, qu'autre chose, mais ça, je trouve, une ampleur vraiment incroyable. Et donc, moi, ça reste un de mes films préférés, en fait. Donc, je suis content que... Je n'ai pas choisi le thème désert, je précise à nos auditeurs, mais je suis très content de pouvoir parler de Babel, du coup.
D'accord. Non, j'avoue que cette fois-ci, c'est moi qui ai pris ce thème-là. C'est vrai que c'est un film que je n'ai jamais vu. C'est quelque chose que j'aurais rajouté à ma liste. Et en fait, je suis content que tu en aies parlé parce que Iñárritu, un petit peu par hasard, j'ai trouvé qu'il avait un lien avec une des œuvres que j'avais préparées de mon côté. Donc, il s'agit de Point Oméga de Don DeLillo. Donc, on a déjà parlé de Don DeLillo par le passé avec L'Homme qui tombe. Tu en avais parlé. Il y avait Libra aussi. C'est un écrivain plutôt prolifique, mais qui de temps à autre écrit des écrits un petit peu cryptiques. Difficile à bien percevoir, difficile à comprendre. Du moins, c'est toujours un petit peu l'impression que j'ai. Et donc, dans Point Oméga, donc, voici une histoire d'un intellectuel qui travaillait au ministère de la Défense, Richard Elster. Après sa carrière, il s'enfuit, il quitte la ville et il va se ressourcer dans un vaste paysage désertique, dans le désert sud-ouest américain. Et là-bas, il va essayer de chercher une autre perspective de la vie, essayer de s'évader. Et un jeune cinéaste local, Jim Finley, va lui rendre visite et essayer de le persuader de faire une interview documentaire en une seule prise et sans coupure. Un petit peu comme le film Birdman, de Iñárritu avec Michael,
ouais,
qui je pense a deux séquences, si je me souviens bien, maximum deux. Donc c'était un film assez impressionnant. Je crois que c'était la première fois que je regardais un film de ce genre. Donc un film avec Michael Keaton dans le rôle principal et Edward Norton aussi. Et donc, pour revenir à notre histoire, on va avoir une discussion entre ce retraité et le jeune cinéaste qui va vite être chamboulé par l'arrivée de la fille du retraité. Et donc, une nouvelle dynamique qui s'installe entre eux trois. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop spoiler, mais l'histoire bouge très rapidement, de manière parfois saccadée. Il y a des scènes où ça va ralentir et on dirait que l'auteur ici, par souci d'économie, il va laisser derrière beaucoup de choses. Et du coup, sa prose, parfois, en souffre. C'est assez spécial de lire ça parce qu'on voit des passages où on va avoir des personnages qui vont penser et donc on va faire partie de leurs pensées pendant des pages et des pages. On s'y perd un petit peu. Tout comme les pensées peuvent être assez obscures et manquer de fil rouge, elles s'essayent de réfléchir, elles ont toute cette réflexion sur ce que d'autres personnes peuvent considérer faire ou que ces personnes pourraient considérer penser également. Donc il y a un niveau métaphysique avec plein de couches. Ça devient une intellectualisation un peu abstraite par moment. Et j'avais lu par hasard que quelqu'un trouvait que c'était une prose trop ruminative. Et j'avoue que je suis d'accord avec ça parce qu'on s'y perd en fait. Il parvient à perdre le lecteur. On perd l'intérêt dans l'histoire. On ne sait pas trop où on se trouve et quel est l'intérêt de ce qu'il nous raconte. Et il y a une ligne qui représente assez bien l'impression que ça nous donne de l'écriture et de l'œuvre de Don DeLillo. Et c'est conté par la femme du narrateur qui va un petit peu le critiquer et qui va lui dire « Pourquoi est-il si difficile d'être sérieux et si facile d'être trop sérieux ?» Et c'est un petit peu l'impression qu'il nous donne, Don DeLillo. Au lieu d'avoir tenté d'écrire un livre simplement sérieux, il a un petit peu poussé la chose un peu trop loin. Il l'a surcompliqué et ça en fait un livre trop sérieux, qui est illisible par moment, et on s'y perd. Donc, avec des phrases aussi, des non-dits, des phrases qui ne sont pas terminées. Donc, là, j'en ai traduit quelques-unes. Par exemple, il va nous dire que quelque chose était sans signification, ou peut-être pas. Il y a une sorte de flou intentionnel, une sorte de drôle de profondeur qu'il essaie de donner. Et puis, il y a un autre passage dont on parle au début et à la fin, qui sont assez étranges, du moins comme comportement. On va suivre, on est dans un musée et souvent quand c'est un musée contemporain, il y a une salle, une ou plusieurs salles où on peut voir des extraits de films. Donc elle est plongée dans le noir. Et là, il y a un homme qui se tient contre le mur, il se cache même des autres et il va observer un passage du film Psycho qui est découpé de manière extrêmement ralentie. Donc scène par scène, je crois que c'est découpé vraiment, le film nous montre, enfin, on a l'occasion d'observer les 24 images par seconde, donc c'est à ce niveau de ralentissement. Il est obsédé par ce film et par la réaction des autres visiteurs qui viennent regarder ça. Il essaie de se plonger dans leurs pensées, de deviner ce que ces personnes peuvent bien penser, ce que ces personnes peuvent percevoir ou ressentir, que ça apporte un petit peu au côté complexe et un peu flou de l'histoire. Et alors,
Oui. En t'écoutant, je parcours quand même vite la notice Wikipédia. Ouais. Je veux dire qu'elle est... Bon, évidemment, je lis en déconnant parce que je t'écoute en même temps. Mais ça m'a l'air déjà compliqué rien qu'en la lisant. Or, c'est censé résumer, allez, de manière assez simple pour tout le monde.
Oui, et encore, j'ai lu quelque part que, du moins, ce qu'on pouvait lui reconnaître de Lilo, c'est d'avoir eu le mérite d'avoir pu capturer l'instabilité de l'homme. Donc là, je suis d'accord que le livre en lui-même était très instable, très vague aussi. Et puis, je me suis posé la question, donc, de quoi s'agit-il avec ce fameux point oméga? Parce qu'on en parle un petit peu dans le livre. Voilà, on arrive vers ce point oméga. Ça reste assez flou. Donc, le point oméga, ce serait un futur supposé où tout l'univers tournerait en spirale vers un point final d'unification. Est-ce que c'est ce qu'il a tenté de faire? Du moins, je pense que peut-être par la force centrifuge, je suis sorti de cette spirale. Et donc, j'ai raté la sortie ou j'ai raté la fin. Mais voilà. Donc, est-ce que je recommanderais ce livre pour les passionnés de Lilo? Peut-être. Il y aura apparemment certaines ressemblances avec Falling Man, donc L'homme qui tombe. Ça reste à voir. Tu l'as lu, moi je ne l'ai pas lu, donc difficile de dire.
Mais non, ça me serait plus facile que ça quand même.
Ouais.
Oui, certes, tu avais beaucoup une réflexion. Parce que finalement, après le 11 septembre, c'est vrai qu'il ne se passait pas grand-chose, entre guillemets. Moi, j'avais adoré, même si c'est un peu loin, et ça ne me semblait pas si abscon quand même. Quoi.
Oui, du coup, Est-ce que ça me laisserait une impression durable? Il y a une partie où il y a son style a un effet parfois où il accélère assez rapidement, donc on est un petit peu pris par les pages, les événements, et puis il parvient à décélérer aussi, qu'il joue un petit peu avec la notion du temps. C'est une histoire qui laisse peut-être un peu à désirer au final. Ça, c'était pour Point Omega de Delillo et c'est sorti en 2010, donc ça reste assez récent aussi.
Mmh. Bien, bien. Donc ça, ce n'était pas un conseil, visiblement.
Non, peut-être, sauf si on veut se tester et voir, tester sa compréhension à la lecture, ça pourrait être pas mal.
Bien, bien. Alors moi, j'ai quelque chose de plus simple hein, en lecture. Enfin, plus simple. Je ne veux pas faire injure à l'œuvre, au livre, ni à l'auteur. Mais en tout cas, il se passe plus de choses, visiblement. Moi, j'ai relu exprès, en fait, pour préparer ce podcast, Salina, les trois exils de Laurent Godet. Donc, c'est sorti en 2018. C'est un de ses derniers romans. Je fais une courte parenthèse sur Laurent Godet, on en a déjà parlé, enfin, j'ai déjà dit la fois passée que c'était un de mes auteurs préférés, mais entre-temps, j'ai été extrêmement déçu par le dernier qu'il vient de sortir, Chien 51, où il s'essaye à de la science-fiction. Donc, c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'en fait, j'étais content de le retrouver, même si je le relisais. Voilà, et moi, c'est un de ses meilleurs, c'est un de ceux que je préfère en tout cas, Salina, les trois exils, après une très très grosse déception, et ça me fait mal de le dire, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même en tant que personne, voilà, c'est quelqu'un de très agréable à écouter, très sympathique aussi. Revenons-en à ce Salina, les trois exils, qui raconte en fait l'histoire d'une femme à travers les mots de son fils. L'histoire commence, il y a une sorte de prologue, on va dire, mais puis par, on va dire, la mort de Salina. En fait, d'abord, elle part du village dans lequel elle vivait, qui se trouve en plein désert. C'est pas situé précisément, mais on suppose qu'on est en plein Sahara, en fait. Donc, elle quitte le désert avec son fils, quitte le village avec son fils, et en cours de route, en fait, elle meurt avant d'avoir atteint, je ne sais pas si on avait vraiment un objectif, mais en tout cas, elle meurt. Et donc, son fils savait bien que c'était son dernier voyage, et va lui chercher finalement une sépulture. Et donc, il arrive à un village où il rencontre un vieil homme qui était assis, qui s'appelle, je me souviens, Darzagar, et qui a l'air de l'attendre. Et qui lui dit, oui, donc le cimetière, effectivement, se trouve là-bas, sur la cinquième île, et il montre la mer. Mais pour y aller, donc attention, effectivement, c'est bien une île, mais elle est entourée par une enceinte en pierre et une porte. Et la porte n'accepte de s'ouvrir, enfin le cimetière n'accepte de s'ouvrir que si le récit de la vie de la personne qui vient de mourir, j'ai envie de dire, en vaut la peine. Quoi. Donc si elle ne s'ouvrira qu'à cette condition-là. Et donc ce fils doit raconter l'histoire de sa mère, telle qu'elle lui a raconté, pourquoi est-ce qu'elle a eu ces exils-là. Et c'est une vie, en fait, comme souvent avec Laurent Godet, en fait, où... il y a beaucoup de... Enfin, elle doit subir la haine. Elle même va se venger. Et tout ça, finalement, n'amène rien de bon. C'est en tout cas une vie assez dure où elle aura beaucoup de choses à affronter, un viol, etc. Et puis, voilà, est-ce que tout ça va permettre à la porte du cimetière de s'ouvrir? Alors, on retrouve vraiment Laurent Godet. Il y a certains des thèmes de prédilection que j'ai cités. Et alors, moi, ce que j'adore avec lui, qui est formidable, c'est que ces genres de livres ont force de légende. On a vraiment l'impression de lire... comme s'il avait recréé une sorte de mythologie, en fait. Comme si ça existait vraiment dans la mémoire des peuples de cette région-là. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est des personnages très forts. Hein. Donc cette Salina, finalement, on ne l'entend jamais parler. Elle est seulement presque uniquement évoquée par les mots de son fils. Et pourtant, elle est extrêmement présente. Et, alors, donc, et dans le vocabulaire aussi, la manière de s'exprimer, voilà, tout ça fait qu'on a l'impression d'avoir une sorte de légende. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est le mot qui me revenait le mieux à l'esprit quand j'y réfléchissais, justement, après l'avoir terminé ce matin, dans le train, en allant travailler. Voilà, quel plaisir de le retrouver. Parce que je répète, j'étais tellement, tellement déçu que, même si c'était une relecture, ça m'a fait beaucoup de bien.
Oui, et en parlant de légende, il y a aussi le Soleil d'Escorta qui a son petit côté légendaire.
Oui, c'est pas sans lien, hein, parce que c'est aussi il y a aussi viol, hein, si je me souviens bien, dans ce livre-là. Il y a des gens qui meurent, des choses comme ça. Donc on pourrait dire presque, il ne se renouvelle pas beaucoup en faisant ça, mais ça reste extrêmement bien dans ce qu'il fait, en fait. Donc ça reste particulier, parce que moi, je ne connais que lui qui écrit comme ça, qui a ce genre d'histoire, cette force dans les personnages. Mais le Soleil d'Escorta, ça se passe en Italie déjà, donc ce n'est pas du tout le même univers. Et alors, moi, je trouve qu'ici, on a quand même un aspect moins réaliste que dans Le Soleil d'Escorteur, on va dire. C'est pas qu'il y a de la magie. Enfin, si, en fait, il y a un peu de genre, il y a un peu de... Je n'oserais pas dire réalisme magique, parce que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, la légende, c'est encore le... Je me répète, mais c'est le mot qui convient le mieux, parce qu'il se passe des choses comme ça, un peu étranges, on va dire, et qui paraissent tout à fait normales dans le cours du livre, quoi, de l'histoire.
D'accord. Mais rien que la partie avec la porte qui ne s'ouvre que si elle est convaincue de l'histoire, c'est déjà plutôt magique en soi.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait.
D'accord. Et tu parles de Chien 51, c'est ça?
Oui, c'est son dernier qui est sorti en septembre 2022.
D'accord. Et ça ne t'a pas plu parce que t'es pas un fan de science-fiction ou c'est plutôt en soi c'était
Je ne suis pas un fan de science-fiction, certes, mais comme c'est Laurent Godet, j'y allais aveuglément, on va dire. Franchement, je n'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui, parce qu'on est là, on est plus du tout dans le désert pour le coup. Mais non, en fait, on ne retrouve pas ses thèmes, on ne retrouve pas des personnages forts, on retrouve. Enfin, il essaie en fait un peu parfois de retrouver un certain style, bah, à certains moments, mais ça reste très fugace. Et... Moi, je trouve qu'il s'est un peu perdu là-dedans. Voilà, et je le redis, tellement, tellement triste, tellement. Enfin, j'étais triste. C'est tellement dommage que de pas pouvoir. C'est la seule fois où j'ai vraiment été déçu par lui, quoi. Il faut bien qu'on soit déçu même par les meilleurs, quoi.
Du coup, c'est peut-être le livre qui lui fait perdre quelques points pour le prix Nobel de fin
Ouf,
d'année.
je pense pas. Il y a que moi qui le veux comme prix Nobel.
Ouais.
Personne ne l'a jamais cité comme ça. Il le mérite toujours, de toute façon. Ça ne change pas.
D'accord. Alors, je vais passer alors à la quatrième œuvre pour ce podcast. C'est un livre de Yuri Herrera, qui est un écrivain mexicain. Et le titre en français, donc c'est un livre qui a été écrit en espagnol, donc le titre en français, c'est Signes qui précéderont la fin du monde. C'est un livre assez court, mais assez dense aussi. Il s'agit d'une histoire de frontières, une sorte de fable plutôt sombre, et on va reconnaître des contours qui peuvent être assez inquiétants, ceux du Mexique ici, et des États-Unis, avec c'est une histoire de migration et aussi une histoire des impossibles, des impossibilités. On suit ici une jeune fille, Makina, qui est plutôt une jeune ado qui n'a peur de rien. Elle a une mission, c'est de traverser la frontière, de passer la frontière du Mexique vers les États-Unis, tout en faisant attention aux relations qu'elle peut avoir avec la mafia locale, la pègre mexicaine. Et sa mission à elle, c'est de retrouver son frère qui est parti aux États-Unis depuis plus d'une dizaine d'années et qui n'a pas vraiment donné de signe de vie depuis. Donc ici, c'est un livre qui est assez intéressant parce que ça commence par une scène où elle est elle-même allongée sur le sol. Il est possible qu'elle ait été, par exemple, un peu brusquée par, en fait, un effondrement de chaussée au milieu de la rue. Et ça a un côté un petit peu mystique où le temps flotte un petit peu. Elle voit un homme se déplacer au milieu de la rue et il disparaît après quelques instants dans une sorte d'effondrement, un trou béant qui absorbe tout, tout autour d'elle. Elle parvient à s'en remettre et puis elle démarre son aventure. Donc elle passe voir sa mère qui lui donne cette mission d'aller voir son frère de l'autre côté de la frontière. Donc à travers cette épopée, donc elle aura pas mal d'étapes à passer en revue. Ça donne un petit air étant donné que chaque étape est assez compliquée de devoir passer à travers les cercles de l'enfer. Il y a un petit côté aussi plutôt symbolique sur la mythologie aztèque. On retrouve par exemple la vertu du sacrifice. Quand elle sera de l'autre côté de la frontière, elle verra beaucoup de compatriotes mexicains qui incarnent vraiment cette idée de sacrifice, qui travaillent très dur à la tâche pour pouvoir nourrir les familles de l'autre côté, au Mexique. Elle comparera ça avec la vie des Américains qu'elle trouve plutôt superficielle. Donc au final, je trouvais que c'était un livre assez dense, plutôt provocateur, qui pose aussi des questions sur cette frontière qui existe, qui n'a pas toujours existé et qui est souvent remise en cause en politique aussi aux États-Unis. Et si je devais donner un bonus, ce serait aussi pour la traduction, parce que c'est un livre avec beaucoup d'argot, beaucoup de violence et des dialogues assez intenses. Et étant donné que ça vient de l'espagnol, tout ça a été traduit sans en faire de trop. Donc je trouve que j'ai eu l'impression quand même que le livre avait été bien traduit, ça avait été bien rendu en anglais. Un bonus peut-être pour la traduction de l'espagnol vers l'anglais. Dans cette histoire, on voit à chaque fois qu'elle passe plusieurs frontières. En fait, elle doit faire, pour obtenir l'information dont elle a besoin, elle passe d'une mafia locale à l'autre, discute avec plusieurs mafiosos. Et à chaque fois, ça donne l'impression d'être une frontière en plus dans le vice. pour obtenir les informations dont elle a besoin. Donc ça, c'était pour Signes qui précéderont la fin du monde de Yuri Herrera. Un livre assez court, mais qui a laissé une bonne impression sur l'auteur.
Ça existe en français ?
Je pense que oui. Parce qu'en fait, le titre en... Oui, je pense que ça existe. Ah oui, je crois que c'est sorti en 2015.
Non, j'étais un peu surpris par le titre, tout simplement. Je trouve que ça ne sonnait pas comme un titre. Effectivement, c'est chez Gallimard, la série La Collection du Monde Entier. Ok. Alors, moi, je vais reparler cinéma avec un film déjà assez vu, hein, qui s'appelle Bagdad Café. Enfin, Bagdad Café, c'est la traduction en français. Il est sorti sous le titre Out of Rosenheim, qui est une ville d'Allemagne. Et alors, donc, c'est sorti en 87 et ça avait eu, enfin, c'est un très très gros succès en France. Et alors, le film est notamment connu pour sa fameuse chanson Calling You. Donc, si t'as l'occasion, Maxime, d'écouter à côté. Enfin, voilà, c'est un très, la chanson générique du film est vraiment très très connue. Voilà, quand on dit Bagdad Café, en fait, on collectif, mais en tout cas, on pense tout de suite à cette musique-là. Et alors, voilà un film particulièrement atypique, hein, réalisé par Percy Adlon. Alors, je dois reconnaître que je ne connais pas ce réalisateur-là particulièrement. Bah, il est allemand, en fait. Hein, donc, voilà, c'est un film à la fois allemand et américain. Mais donc, à part ça, on ne peut pas dire qu'il soit très, très connu. Et je regarde la liste de ses films, c'est essentiellement, essentiellement en allemand. Et je ne pense pas qu'il se soit beaucoup exporté. Donc, en fait, le film commence, on voit une femme, donc on est dans le désert aux États-Unis. Et en fait, donc elle est touriste hein, là-bas, puisqu'elle est allemande. Elle quitte son mari, en fait. Et donc, dans ce désert, en fait, elle se retrouve uniquement avec la valise de son mari. Et alors, ce qui est très particulier, en fait, déjà, c'est le physique de cette dame. Donc, on dirait une grosse femme allemande, bavaroise, et qui se retrouve notamment avec la garde-robe de son mari. Je sais pas si c'était un peu excentrique, mais en tout cas, avec tous les costumes bavarois très typiques de la région. Donc déjà, ça, c'est un premier élément particulier. Et donc, elle atterrit finalement dans une espèce de motel qui s'appelle Bagdad Café et qui est tenu par, je sais plus comment elle est dans le film, elle s'appelle Brenda, qui est une femme qui n'en peut plus, en fait, qui crie un peu sur tout le monde, qui n'arrive pas à gérer son motel, en fait, qui ne l'organise pas, enfin, qui n'arrive à rien organiser, qui est bordélique, qui veut nettoyer, ça ne suit pas non plus. Et alors, dans ce café, il y a tous des gens un peu spéciaux, un peu marginaux comme ça, et notamment un peintre qui va commencer à peindre cette touriste. J'ai oublié de dire le nom de l'actrice, en fait, c'est Marianne Sagebrecht, et qui va la peindre de moins en moins habillée. Et voilà, donc c'est comment tout ce petit monde, en fait, l'arrivée en fait, de la touriste allemande va un peu changer les relations de tout le monde et va apporter en fait beaucoup de fantaisie et finalement du bonheur dans la vie de tous ces gens qui finalement étaient un peu... Et surtout, en fait, la tenancière du motel, assez, je vais dire malheureuse, mais en tout cas, qui subissait beaucoup de choses, subissait sa vie. Et voilà. Et donc, tout ce moment finit par très, très bien s'entendre. Et voilà, c'est finalement assez, assez atypique. Succès vraiment surpris, parce qu'il n'y avait rien de... Bah, rien n'aurait pu prédestiner le film au succès qu'il a eu, surtout en France, d'ailleurs, je crois. Voilà, donc c'est un côté un peu ovni comme ça qui fait que ça mérite vraiment le détour.
D'accord. Est-ce que tu le connais pour d'autres œuvres par la suite?
Mais non, c'est ce que j'ai regardé sa liste. Je ne pense pas que ce soit beaucoup exporté. Alors, j'avais en tête que le film avait fait 2 millions d'entrées en France, mais je ne retrouve plus l'info comme ça, donc j'ai peur de dire des bêtises. Bon, en tout cas, un gros succès surprise, quoi. L'actrice n'était même pas connue non plus. Après, Marianne Sagebrecht, en fait, pour la manière... Très, très anecdotique, on la retrouve, si je me souviens bien, dans le Astérix, le premier des Astérix, qui de Claude Zidi, qui était une production européenne, on va dire, dans laquelle en fait on a des acteurs là-dedans qui sont allemands notamment, qu'on a post-synchronisé en français, bien entendu, et elle joue le minuscule rôle de Bonne Mine, la femme du chef. Moi je la connaissais que pour ça, quoi. Et encore, c'est en faisant des recherches, hein. Je n'avais pas du tout fait le lien entre les deux. Mais je vois qu'elle a quand même elle a fait quelques films. Il y a un film de La Guerre des Roses de Danny DeVito, mais qui est sorti après Bagdad Café. Et après, quand je regarde sa filmographie, je dois bien avouer que à part ça, moi, je connais pas vraiment ni les réalisateurs ni les films, quoi.
D'accord. Et c'est marrant que tu parles d'Astérix et Obélix parce que là, j'y pensais justement. Je pensais en parler comme faire peut-être une petite critique ici en parlant de désert, étant donné qu'apparemment c'est plutôt raté comme film.
Est-ce qu'on prend le désert dans les salles, visiblement, parce que donc la première semaine, apparemment, va être bonne. Et ça, c'est pas étonnant. Hein. On va voir ce que ça va donner par la suite.
Ouais. De ce que j'ai pu lire, on en fait déjà la pub depuis 2 mois, plus ou moins.
Oui, tout à fait.
Il y a eu un gros matraquage là-dessus. Il leur faudrait apparemment 6 millions d'entrées pour être rentable, pour être un challenge.
Ouais, mais peut-être qu'il arrivera à ne pas faire les entrées en France, mais ailleurs. Moi, je me demande quand même, tu vois, le fait d'avoir choisi la Chine, si c'est pas pour essayer de l'exporter.
Peut-être.
Une stratégie aujourd'hui de certains films hollywoodiens qui en fait qui sont tellement chers qu'on sait qu'ils ne peuvent, les studios ne pourront pas jamais les rentabiliser sur le territoire américain. Et quel est le plus gros marché mondial? La Chine. Donc maintenant, on prend ça en compte, même dans la conception, la réalisation de certains films à grand spectacle. Hein. Donc je parle des Marvel ou des choses comme, enfin, des choses comme ça, ou peut-être pas Marvel exactement, qui a ses typés américains, enfin, pas des choses que je connais, que je maîtrise très bien. Mais moi, j'avais déjà quand même entendu qu'il y avait un ou deux films comme ça où clairement, c'est américain, mais on espérait bien que ça parle très fort au public chinois, quoi.
Ça joue un peu sur la psychologie aussi de se dire, en étant chinois, ça parle sur la Chine, on compte pour quelque chose, on parle de nous, et du coup, ça, il y a un certain engouement par après. De se dire, de quoi s'agit-il? Il faut qu'on aille voir. Un petit peu comme en étant belge, on est super content si, par exemple, une partie d'un film hollywoodien se baserait en Belgique, ou aurait une histoire sur la Belgique, mais tout d'un coup, je pense qu'il y aurait pas mal de spectateurs qui iraient voir.
Ben oui, finalement, tu vois, le film de Martin McDonagh, celui qui a fait les Banshees of Inisherin, qui est sorti ici récemment, il avait fait In Bruges avant. Et bon, le film avait du coup, enfin, je sais pas s'il avait fonctionné particulièrement, mais en tout cas, il avait obtenu une résonance particulière, évidemment, chez nous.
Oui, ça donne une certaine importance au pays ciblé, du coup,
Oui, tout à
ça
fait.
pourrait peut-être marcher. Ça reste à voir. Je pense qu'ici, c'est une histoire de complot. Donc, il y a l'envoyé chinois ou chinoise qui passe en Europe demande l'aide d'Astérix et Obélix parce qu'il y a un complot un problème de succession entre deux prétendants au trône de l'empereur. Donc, ça reste à voir si. J'avoue être toujours un petit peu curieux, mais j'ai entendu que c'était assez décevant et j'ai vu passer pas mal de commentaires sur le post Instagram de Guillaume Canet où les commentaires ont été limités et j'ai vu que c'était plutôt négatif. Donc, si tu as l'occasion, tu peux aller voir plus ou moins un
Non, ben
ratio de 1 sur
je vais
10
faire
en fait.
un petit peu de publicité pour mon entreprise, puisque comme je travaille à la RTBF, ben, là il y a la critique d'Hugues Dallier un matin, le matin, le mercredi de la sortie, fait un petit peu le buzz sur les réseaux, et la vidéo a été vue plus d'un million de fois déjà à aujourd'hui, quoi. Bon, il a plutôt bien critiqué le film, quoi. Il n'a rien sauvé, on va dire.
Oui, j'ai eu l'occasion de la lire aussi, juste avant, et c'est vrai que c'était assez. Ça piquait, on peut dire. Tu parlais, je pensais justement que tu allais dire que peut-être la RTBF avait aussi participé au niveau de la
Je ne
production
crois
ou
pas.
non, donné un certain budget. Et vers les mieux pas, parce qu'à mon avis, ça va être plutôt un gouffre, on verra ce qu'il en sera. D'accord, et puis alors, en parlant, mais justement, de peut-être de Gaulois, de barbares. Je vais faire une transition facile avec le livre de John Maxwell Coetzee, qui a eu le prix Nobel en 2003, et dont une des œuvres plutôt connues est En attendant les barbares, donc Waiting for the Barbarians, qui est sorti en 1980. Et là, il s'agit plutôt d'une allégorie politique sur le processus d'expansion impériale. On parle justement des empires, et c'est vu à travers les yeux d'un magistrat qui est assez vieillissant et qui est en poste, même en avant-poste, au bord du désert. Donc il y a une sorte de grande forteresse à la frontière de l'empire, un empire qui tente encore de s'étendre. L'histoire va prendre place dans cette ville coloniale. C'est un empire sans nom. Je pense qu'on ne s'y réfère qu'en tant qu'empire à travers l'histoire. Et on va donc suivre le parcours de ce magistrat qui, très rapidement, est témoin de la violence et la torture qui est infligée à la population locale. Parce que les colons et le peuple local ont donc des relations. Ce fort est plutôt ouvert, donc en général, le marché se fait aussi dans l'enceinte du fort. Il y a des échanges, il y a parfois des patrouilles. Et on commence à se poser la question sur qui sont les soi-disant barbares. Est-ce que ce sont les colons ou la population locale? On peut se poser des questions après certaines scènes de violence. Et lui va commencer aussi à remettre en question la moralité de l'Empire. Donc, c'est un livre qui va explorer pas mal de thèmes, donc sur le pouvoir, sur l'oppression, aussi le côté impérialisme. Quelle est notre réaction vis-à-vis d'un régime autoritaire? Donc, Coetzee, il est sud-africain. Il a écrit ça aussi, je crois que c'est encore en plein apartheid. Donc, il a aussi sûrement une réflexion là-dessus. Est-ce qu'on peut se permettre de condamner les abus de pouvoir que fait l'Empire, ou est-ce qu'on pourrait être traité justement de traître? Donc, c'est un petit peu la question que ce magistrat se pose au fil du récit. Ce roman termine sur un dilemme pour l'auteur. Donc, il se rend compte qu'il a un petit peu sûrement perdu la foi en l'Empire, en l'histoire qu'on essaie de vendre aussi pour convaincre les troupes, convaincre ses compatriotes. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques thèmes communs avec le livre Disgrâce. Je ne sais pas si tu l'as vu, Lutib. Donc, il y a une partie sur le vieillissement et peut-être la honte de vieillir. Il y a sur la violence, une partie sur le viol aussi. Le fait d'être témoin comme tiers, ces actes-là, et de ne pas pouvoir intervenir. Et puis, donc, sur.
Oui, ça me parle par rapport à Disgrâce, parce que si je me souviens bien, c'est un homme qui ne comprend plus le monde finalement dans lequel il est, quoi. Il ne comprend plus que son comportement peut être inadapté, etc. Donc oui, ça entre un peu en résonance avec ce que tu dis.
Oui. Est-ce que c'était même pas un prof d'UNIF
C'est
qui.
ça, ben
Ouais,
ouais, tout
c'est
à
un
fait.
litre prof d'UNIF. Et alors, par hasard, j'ai vu qu'un film était sorti en 2019, un film de Ciro Guerra, avec Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson. Je ne sais pas si ce film a eu tant de succès que ça, mais il a le mérite d'exister. Et alors, un autre titre que j'ai eu l'occasion de lire et qui m'a vraiment rappelé en fait ce premier titre-ci. Donc, En attendant les barbares, je l'ai lu il y a plus de 10 ans, facilement, peut-être bien presque 15 ans, peut-être un peu moins. Et donc, directement en lisant ce deuxième titre qui est Le désert des Tatars, donc en anglais de Tartar Steppes, par Dino Buzzati, donc c'est un écrivain italien. Et donc ce fameux désert des Tatars, c'est un roman qui a été publié en 1945, si je ne me trompe pas. Peut-être en français en 1945, je crois qu'en italien c'était en 1940. Il va raconter l'histoire d'un jeune homme, Giovanni Drogo, qui est posté comme sentinelle dans une forteresse isolée au milieu de la steppe tatar. Donc c'est vraiment aussi, on retrouve l'histoire d'une forteresse aux abords de la frontière avec l'ennemi qui est là, mais qui est aussi invisible. Donc, en attendant les barbares, c'est un ennemi qu'on ne voit pas, on sait qu'il existe, il sert pour le bien-être de l'Empire d'avoir un ennemi commun. Et ici, on parle un petit peu la même chose. Donc, on parle de les fameux Tatars qui pourraient venir attaquer, mais qui, tout au fil de la vie de ce fameux Giovanni, n'apparaissent pas du tout. Donc, lui, initialement, il est plutôt enthousiasmé par sa mission, mais au fil des années, il devient de plus en plus désabusé et ses rêves de gloire vont un petit peu s'estomper. On voit une certaine, peut-être une certaine méditation sur le passage du temps aussi. Il y a son espoir qui tourne en déception et peut-être le besoin de trouver un but comme empire ou bien comme simple individu. De ce que j'ai pu lire, ça reste un classique italien du XXe siècle et une de ses plus belles œuvres de Buzzati. En lisant direct dès les premières pages, ça m'a directement rappelé le livre de Coetzee. Deux livres qui se ressemblent assez fort.
Et donc, et ce désert des Tartares, c'est où? Ça se situe quelque part?
Je t'avoue que d'un point de vue géographique, c'était pas très clair. Et même d'un point de vue technologique, ça reste assez un petit peu confus parce que de temps à autre, ça nous donne l'impression d'être peut-être d'un point de vue que ça pourrait se passer au Moyen Âge. Mais à d'autres moments, on te parle de fusils, d'armes à feu, d'avancées technologiques assez importantes, de construction de routes.
Ouais, c'est pas vraiment situé, c'est pas
C'est pas
déterminé.
situé. Et étant donné que l'écrivain est italien, ça ne se réfère pas spécialement non plus à l'Italie. C'est aussi un empire sans nom.
D'accord.
Et à choisir, je prendrais quand même le livre de Coetzee. Je pouvais choisir. Je trouve que celui-ci était manqué peut-être parfois un petit peu il y avait certaines répétitions qui ne semblait pas très nécessaire. Donc, par exemple, il y a un nouveau personnage qui arrive, on nous raconte qu'il est très pâle, puis sur les 3-4 pages suivantes, on va nous raconter encore 3-4 fois qu'il est très très pâle. J'ai pas trouvé vraiment l'intérêt de ce côté-là, au-delà du fait que ce personnage décède, peut-être c'était pour essayer de nous donner un indice, mais c'est tout.
Ok, très bien, très bien. Alors moi, je vais parler pour une fois d'une série, puisque je pense que ça ne m'arrive jamais, donc je vais un peu inaugurer ça. Avec ici une série qui se passe dans le désert australien, plutôt original entre guillemets comme lieu. Et la série s'appelle The Tourist, donc Le Touriste. Alors comment ça commence? Ben, premier épisode, en fait, on a un homme qui est dans son pick-up, on va dire dans son véhicule, qui roule en plein désert, tranquillement. Quand tout à coup, il se fait prendre en chasse par un énorme camion, un gros semi-remorque, très puissant, puisqu'il arrive, enfin, il a du mal à lui échapper, et finit par se faire percuter d'ailleurs. Le type se retrouve à l'hôpital, il a tout oublié, il ne sait plus qui il est, même pas son nom, pourquoi est-ce qu'il est là, tout ça. Et il y a une jeune fille qui va arriver, qui est un peu, qui fait ses armes, on va dire, vraiment toute jeune, qui n'a pas du tout confiance en elle, mais qui a très à cœur de bien faire son travail. Et donc, elle veut absolument comprendre ce qui s'est passé, ben, l'agression, forcément, mais qui était cet homme-là, et donc va l'aider un peu aussi. Puis, il y a un troisième personnage, qui est une serveuse de bar, que notre homme, là, va rencontrer aussi à un moment, qui va l'aider aussi finalement à retrouver qui il est. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a énormément de rebondissements, mais ce qui est vraiment très très chouette dans cette série, c'est qu'on suit en fait cet homme pas à pas. Donc on n'a que son point de vue, et donc nous non plus, c'est ça je trouve la grande force, on ne comprend rien. Donc on a au départ finalement beaucoup d'empathie pour lui, mais enfin pourquoi est-ce qu'il se fait agresser comme ça? Dans quelle détresse il doit être, quoi. Donc on vit vraiment tout ça avec lui. Et puis au fur et à mesure des épisodes, en fait, on va découvrir quel genre d'homme il est, qu'il était avant son accident. Lui-même, il va même avoir des difficultés à comprendre pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça. Et donc l'empathie initiale qu'on avait va peu à peu se transformer finalement au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur le personnage. Donc ça, c'est vraiment assez bien amené. Et du coup, comme on suit toujours ce personnage, on est confronté finalement à la même chose que lui, c'est-à-dire, mais enfin, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Ben, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Effectivement, les mêmes doutes, les mêmes interrogations et parfois la même détestation vis-à-vis de ce qu'il a pu faire. Donc le suspense est vraiment très, très bien amené. Et alors tous les dilemmes finalement moraux aussi, sont aussi bien, bien relatés. Donc, très, très chouette série qui est en 6 épisodes. Alors, dans ma mémoire, il me semblait que c'était conclusif. Mais apparemment, il y a une saison 2 qui est commandée. Donc, voilà, il y aura... Il y avait une possibilité... Je ne me rappelle plus exactement de la toute fin, mais voilà, il y avait sans doute matière à poursuivre. Donc, pourtant, ça se finit, on comprend qui il était, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là, tout ça, c'est bien... Voilà, on comprend bien à la fin. Alors, c'est une série BBC. Je sais pas si c'est vraiment c'est gage de qualité, mais enfin bon, c'est un label qui doit fonctionner. Alors l'acteur principal, pour la petite histoire, c'est Jamie Dornan. Alors moi, je ne connaissais pas vraiment, mais apparemment, c'est celui qui jouait le rôle de Christian Grey dans Les 50 nuances de Grey. Je pense qu'il a dû avoir un certain succès. Mais voilà, il est très, très crédible, très, très convaincant dans ce rôle, en tout cas ici. On avait un peu plus consistant que celui de Christian Grey. Et voilà, donc série de 6 épisodes qui font environ... 1 heure par épisode.
Et tu as eu l'occasion de voir ça récemment ou ça date de quelques années?
Non, pas du tout. C'est une série, c'est 2022.
D'accord. Ah, ouais.
Donc moi, j'ai vu ça il y a moins d'un an, le temps que ça arrive. Ça a été diffusé en fait sur OVIO. Donc ça, en Belgique, c'est uniquement sur OVIO. Et je pense que c'est France 2 qui avait les droits en France. Et donc la série, c'est vraiment la diffusion BBC, c'est tout début 2022. Donc je pense qu'il y a moins d'un an qu'elle est arrivée chez nous.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est disponible sur plateforme ou des choses comme ça, parce que je n'y suis pas.
D'accord. Donc ça confirme l'hypothèse que la question qu'on se posait, c'est as-tu une TV? Et donc oui, tu regardes de temps à autre une série, donc... L'hypothèse
Je regarde
confirmée.
Beaucoup de films à la télé aussi, hein, donc il ne faut pas croire.
Oui, parce que bon, les films, ça pourrait être au cinéma uniquement. D'accord.
Bagdad Café, dont j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai vu à la télé, puisqu'en 87, je n'étais pas encore né, et je l'ai même vu assez récemment. Donc c'est pour ça que j'ai pu en parler assez facilement.
D'accord. Une autre œuvre, ce serait celle de Scott Momaday. C'est Earth Keeper, donc le gardien de la Terre, on pourrait traduire ça comme ça. C'est pas exactement sur le désert, donc là, je déroge un petit peu à la règle, mais c'est un petit recueil d'essais qui est sorti en 2020, d'essais de poèmes qui reflètent le lien de l'auteur avec la terre et la culture amérindienne. Donc, lui, il est romancier, poète, et c'est aussi un membre de la tribu Kiowa. Il est lauréat du prix Pulitzer, il l'a reçu en 1969, et il va décrire son rôle de gardien de la Terre et nous expliquer la responsabilité que nous avons d'en prendre soin pour éviter de transformer la Terre en désert. Donc, il va partager des histoires de son enfance, de la vie de ses ancêtres, il va mêler une sorte de révérence par rapport à ça, et puis une sorte d'avertissement aussi, en nous rappelant les dons infinis que nous fait la nature et aussi le rôle que nous avons de l'honorer et de la protéger. Donc il y a un côté aussi peut-être retour aux sources, naturiste, connexion avec la nature. Donc le livre est divisé en deux sections, donc l'aube et le crépuscule. On commence avec la partie avant l'industrialisation et la colonisation, et puis il y a un après. Comme critique, je pourrais dire que c'est un livre qui peut paraître peut-être un petit peu décousu, parce qu'il a l'ambition d'être une sorte d'autobiographie au travers de ses essais, de ses poèmes. La prose, on peut peut-être louer sa prose pour sa beauté. Peut-être le point négatif, c'est à chaque fois la longueur de tous ces poèmes ou de tous ces petits essais. C'est une page et demie au maximum. On aimerait peut-être avoir un peu plus de continuation entre ces différents passages. Et le livre se termine par une sorte d'appel à l'action et à la question que pose justement l'auteur, de savoir si on aura dans le futur, si on aura l'occasion de partager les histoires d'une terre perdue. La question que Momadé se pose, c'est si dans le futur, il partagera des histoires d'une terre perdue ou d'une terre que nous sommes parvenus à sauver et à maintenir en bon état. Et
donc ça, c'est très récent.
C'est sorti en 2020, je pense. Oui.
Alors moi, pour terminer du moins pour ma part, je vais proposer quelque chose d'un peu plus léger après ce qui vient d'être expliqué et après ce qu'on a finalement abordé aussi. Quoique, moi, c'était une lecture, c'est plus une lecture d'été, hein, s'il faut la classifier. Et ça s'appelle Carnet du Nil Blanc et l'auteur, c'est John Hopkins, sorti en 2012. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu un journal de bord. Donc on a deux étudiants fraîchement diplômés de Princeton aux États-Unis qui ne se voient pas du tout commencer une vie plan-plan. Donc se marier, avoir des enfants, tout ça. Ils ont envie d'aventure. Et donc ils partent presque à l'inconnu. En tout cas, ils vont suivre un périple un peu préparé quand même, on va dire. Mais pas trop non plus, quoi. Hein. Donc ils vont devoir s'arrêter en chemin, mais ils le font. Mais ils vont partir assez loin puisqu'ils vont démarrer en Allemagne pour rejoindre finalement Nairobi au Kenya. Et tout ça à bord d'une moto BMW blanche qu'ils vont appeler le Nil Blanc. Donc ces carnets du Nil Blanc font à la fois référence à la moto, mais aussi à l'endroit où ils vont, où doit s'achever leur périple. C'est les sources du Nil en fait qu'ils recherchent. Alors donc c'est sous la forme d'un carnet de bord. Donc voilà, c'est l'occasion d'évoquer un peu des petits malheurs qu'ils vont avoir. Donc il y aura des petites maladies, on va dire, hein, diarrhée, voilà, des choses comme ça. Des gens parfois un peu spéciaux, mais en tout cas voilà, c'est petites aventures, et c'est décrit avec beaucoup, avec une certaine légèreté, on va dire. C'est un petit côté initiatique puisque ce sont des jeunes qui font leur dernier voyage ensemble, forcément, avant une vie plus rangée, sans volonté non plus de trop intellectualiser la chose, quoi. C'est vraiment le goût de l'aventure, en fait, plus qu'on ressent ici, et sous la forme d'un carnet de bord, donc de courtes, de texte finalement assez court, et eux ne se prennent pas non plus au sérieux. Donc c'est genre, plus une lecture d'été, comme je disais, fort agréable, assez, assez charmant en fait, je trouvais à lire.
Et du coup, ça me rappelle un documentaire qu'on a commencé aussi à regarder, qu'on a abandonné. C'était sur un...
abandonné parce que ça n'allait pas du tout, c'était pas terrible.
Abandonné parce qu'on s'attendait à autre chose. C'est l'histoire de Heinz Türke, un Allemand, qui a quitté l'Allemagne en 62 et qui a fait un tour du monde pendant plus de 25 ans ou même plus une trentaine d'années à vélo, et il a visité des centaines de pays. Et ce documentaire sur Netflix nous compte un petit peu son histoire. Je me souviens, on a regardé peut-être une demi-heure, mais on s'est arrêté à part après. On s'attendait à voir pas mal d'explications sur son parcours, étape par étape, de voir peut-être pas mal de photos, peut-être d'espérer que Netflix aille à ses emplacements pour nous filmer un petit peu les paysages. Au final, il ne s'agit d'une discussion entre lui et ses amis de jeunesse. La plupart du temps, les photos ne nous sont pas vraiment montrées. Donc, après une demi-heure, on s'est dit, on peut passer à autre chose. Mais ça me parle un petit peu. Tu parlais de le Nil Blanc, donc cette moto qui est le moyen de transport. Dans ce cas-là, c'était un vélo qui lui était assez cher et qu'il a utilisé pour bourlinguer un petit peu autour du monde. Donc, c'est à ça que j'ai pensé. Je pensais pouvoir utiliser ça aujourd'hui, mais ça manquait de contenu plus pertinent.
D'accord.
Donc, je le conseillerais peut-être pas non plus comme documentaire. Et alors aussi plus léger, j'ai eu l'occasion de voir deux documentaires. Le premier, c'est Hidden Algeria. Donc, c'est plutôt l'Algérie un petit peu qu'il nous reste à découvrir. C'est un documentaire qui a été réalisé par Ayan Chakagola. Et là-dessus, on va, je vais juste parler des différentes étapes. On va en fait essayer de découvrir l'Algérie vraiment du nord au sud. Donc, commence à Alger. Puis on va passer par différentes étapes. On parle par exemple des balcons de Goufi, qui est une sorte de grand canyon avec, à certains endroits, une végétation un peu de type oasis, des habitations creusées à même les pans du canyon. Et par après, on traversera des villes, enfin des plus petites villes et villages plus typiques, Gardaïa, Beni Isgen, Timimoun, des noms qui ne disent peut-être rien, mais qui sont assez pittoresques si on passe en vue ces villages, avec une explication un petit peu sur la manière dont, par exemple, les populations parviennent à survivre dans des milieux assez désertiques, les techniques anciennes de construction, des murs très épais avec une bonne circulation de l'air, la collecte de l'eau de pluie qui, par exemple, traverse toute la ville en souterrain pour pouvoir bien irriguer et être disponible pour de nombreuses maisons et pour les habitations et les plantations de dattes. Ça reste c'était assez léger comme documentaire, mais plutôt intéressant, avec toujours de belles vues du désert du Sahara algérien. Et alors le dernier, c'est Desert Coffee, qui, je pense, ça me donne l'impression d'avoir été en partie filmé et réalisé par toute une équipe de Polonais, parce que j'ai vu sur au générique de fin pas mal de noms à consonance polonaise, par Michael Lipinski. Et ça, en fait, ça ressemble un petit peu à Nomadland, parce qu'on est en Californie, mais dans une zone très désertique, dans un groupement de caravanes. Ils ne sont pas connectés aux services d'électricité, sans eau également. Ils ne payent pas de taxes. Ils en sont très fiers de ne pas payer de taxes foncières pour le terrain. Mais on voit malheureusement que c'est un groupe qui essaye de vivre en autosuffisance, mais il s'agit en fait d'âmes un petit peu perdues et isolées qui se sont regroupées par chance et qui vivent là. Donc c'est un mélange des gens qui ont certaines addictions à l'alcool ou à certaines drogues et qui végètent un petit peu dans le désert, mais qui sont contents d'être où ils sont. Donc ça reste peut-être un petit peu... Nomadland avait laissé une meilleure vision de ce monde alternatif. Ici, c'était plutôt plus dépressif que ce que Nomadland aurait pu laisser. Donc, on voit que ce sont un peu des âmes perdues, peut-être.
Et alors, pour nos auditeurs, ces documentaires, ils sont disponibles sur une plateforme?
Sur Netflix. Les deux dont j'ai parlé sont sur Netflix. Et c'est tout, en fait, parce que je n'ai pas trop parlé. J'avais plutôt le nez sur la lecture que sur l'écran, cette fois-ci. Donc, ces deux-là sont sur Netflix. On n'a évidemment pas parlé de Lawrence d'Arabie, qui est un film très connu, que j'ai pensé regarder, mais que j'ai ignoré.
On ne va pas vers les choses trop évidentes non plus, évidemment.
Non.
Tout le monde y aurait pensé.
Ce serait trop facile. Ouais. Mais c'est un film qui a, notamment celui-là, a été tourné, si je ne me trompe pas, dans le désert, en Jordanie. Il y a un désert qui a accueilli pas mal de tournages aussi, par le passé. J'en parle dans un podcast précédent. Notamment Dune, sûrement un film ou deux, les Transformers, etc. Est-ce que, un petit mot pour terminer, Tim, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu es plutôt désert, montagne ou mer ou campagne?
Je trouve que le désert est assez fascinant, moi.
Ouais.
Parce que, en fait, surtout quand on pense désert, souvent, la première image qui vient à l'esprit, c'est les dunes du Sahara. Et on se dit, désert, forcément, il n'y a rien qui y vit. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a plein de petits animaux qui se cachent, le plus souvent. Il y a des gens qui vivent dans le désert. Et en fait, c'est beaucoup plus riche que la première image qu'on pourrait avoir à première vue. Donc, je trouve que c'est assez fascinant, en fait.
Et toi, tu as eu l'occasion, si je me souviens, d'aller du côté du Mont Atlas?
Pas exactement le Mont Atlas, mais j'ai déjà passé des vacances, effectivement, dans la région où on a tourné Babel, dont je parlais en début de podcast, donc qui est pas tout à fait Ouarzazate, c'est pas très loin, c'est Tazarine ou quelque chose comme ça, donc vraiment dans le grand sud marocain, qui est plus un désert caillouteux, rocheux, qu'un désert de sable. Hein. Là, on n'a pas trop de sable. On a du désert des dunes de sable au Maroc, mais pas exactement à cet endroit-là. Et à Ouarzazate, en plus, il y a un studio de cinéma, en fait. Hein. Donc, preuve que le désert vit. Dans le désert, on a des oasis aussi, mais les oasis, ben, tout d'un coup, il y a plein de vie, en fait, là-bas, juste parce qu'il y a un peu d'eau. Donc, tout de suite, ça apporte de l'activité, on va dire. Et donc, oui, le désert n'est pas si désert que ça. Et moi, je dois dire qu'au Maroc, finalement, c'est peut-être la partie que j'avais préférée. On a aussi fait les villes impériales ou des choses comme ça, la côte. Mais le désert, même s'il fait très, très chaud, j'avais vraiment beaucoup aimé.
Oui, bah, j'ai eu la même impression aussi. À Wadi Rum, la ville légendaire de Petra aussi, en Jordanie. Donc,
Jordanie, ouais.
ouais, ça a laissé un bon souvenir et moi, je pense que j'y retournerai bien également.
Même pour quelqu'un qui n'aime pas la chaleur.
Bah, tu sais, si tu y vas en novembre, c'est très supportable.
D'accord.
On se limite au. Ah, peut-être même pas 30 degrés, peut-être entre 25 et 30.
Oui, trop
Et tu
confortable.
sais d'ailleurs qu'en septembre, ils organisent un semi-marathon et un marathon dans la ville de Petra.
Ah oui.
Et donc, il est possible. Je vois plein de publicités justement. Donc, les courses de l'extrême. Donc, en septembre, c'est en général, je pense à Petra. Puis, j'ai déjà vu passer aussi, en parlant d'autres déserts, mais différents déserts, des courses dans l'Arctique aussi ou
Ouais,
en
mais
Islande.
dans les Alpes, il y a le marathon des sables, hein, si je me souviens bien.
Aussi, oui.
Et, ouais, voilà. J'allais dire, il y a des fous, mais voilà, c'est un petit peu ça, un petit peu quand même.
Il y a de quoi faire, oui. C'est vrai que la chaleur pourrait faire peur. C'est ce qui me retient de m'inscrire pour l'instant. Il faudra voir. On verra peut-être un peu plus tard dans la saison, hein, où on en sera. Mais pour un semi-marathon, ça te dirait, non?
Non, dans le désert,
Non?
certainement pas.
Ok.
Dans des
Enfin,
conditions beaucoup trop extrêmes.
t'as encore quelques mois pour changer d'avis, donc on en reparlera alors.
Ça va, ça va.
Mais alors, on se dit à la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.